Il est 18h30 sur la Clé des Ondes et c'est l'heure de Point Chaud. Point Chaud, tous les jours de 18h30 à 19h, c'est un tour de l'actu sociale et culturelle sur la Clé des Ondes. Ce soir, on vous propose de réentendre l'essentiel de ce qui s'est dit dans notre plat de résistance. C'était ce midi sur notre antenne. Alors, on essaye d'avoir une invitée au téléphone. On va voir si ça fonctionne ou pas. En attendant, je vous donne ou je vous redonne quand même quelques chiffres pour ce qui est de la situation en Gironde. Et d'abord de la première circonscription de Gironde, celle des quartiers de Bordeaux Nord et de jusqu'à Bruges, avec le député sortant macroniste Thomas Cazenave qui arrive en tête avec 38%, mais suivi d'assez près par Céline Papin qu'on a reçue il y a une semaine pile, mardi dernier. Céline Papin qui fait elle 34%, il y a donc 3000 voix d'écart entre eux deux et tout reste à faire pour le deuxième tour. Les équipes sont repartis bien sûr sur le terrain. Troisième dans cette circonscription, c'est le RN qui est lui bien loin à 21%, mais qui se maintient quand même et qui pourra donc concourir pour ce deuxième tour. Sur la deuxième et la troisième circonscription de Gironde, eh bien, les députés Nouveau Front Populaire, Nicolas Thierry et Loïc Prudhomme sont bien en tête. Il leur a manqué juste quelques voix pour être élus dès le premier tour. Et le deuxième tour devrait donc ne pas poser trop de problèmes pour eux. Idem sur la quatrième circonscription, celle de la rive droite, avec Alain David, député sortant PS Nouveau Front Populaire, qui est là encore bien placé. Dans le Médoc, le RN arrivant en tête, l'ancienne députée PS et qui se représentait sous les couleurs du Nouveau Front Populaire, Madame Go, arrive deuxième et bénéficie du retrait du troisième macroniste qui pourrait donc peut-être lui permettre de gagner sur cette circonscription du Médoc. Les 6 et 7e circonscriptions autour de Mérignac avec Marie Récalde et pour le Nouveau Front Populaire et autour de Pessac avec Monsieur Saint-Pasteur qui sont tous les deux donc en tête et dans une situation plutôt favorable avant le deuxième tour. Sur la 8e circonscription, le bassin d'Arcachon, c'est le RN qui est en tête avec en deuxième position la macroniste et en troisième position la candidate du Nouveau Front Populaire qui s'est désister et appelle à voter pour la candidate macroniste afin de battre le Rassemblement National. Même chose sur la 9e circonscription, le Sud Gironde, avec le RN en tête, députée sortante Modem 2e et députée et candidate Nouveau Front Populaire qui est 3e et qui se désiste et appelle à voter pour la 2e afin de faire barrage au Rassemblement National. Même chose sur la 10e dans le Libournais, avec un appel de Pascal Bourgois, qui était candidat écolo Nouveau Front Populaire, à voter pour Florent Boudier, candidat macroniste, afin de battre le Rassemblement National. La 11e est déjà perdue avec la candidate députée sortante RN qui est réélue. Et puis sur la 12e circonscription, il y aura un match avec le RN en tête, le Nouveau Front Populaire 2e avec Mathilde Feld. Et le 3e, c'est le député sortant macroniste qui se désiste et appelle. Et en tout cas, pourrait permettre un report de voix sur la candidate du Nouveau Front Populaire. Voilà pour un petit tour d'horizon de la Gironde. On est en ligne, si tout va bien, avec Magali Della Souda. Bonjour Magali.
Bonjour.
Merci beaucoup de prendre un peu de temps avec nous par téléphone. Tu es directrice de recherche CNRS en sciences politiques au centre Émile Durkheim. Tu as travaillé sur l'extrême droite, sur les femmes de droite et plus récemment sur le mouvement des Gilets jaunes. Et tu es en direct depuis Grenoble où tu es en plein congrès de sciences politiques. Peut-être on pourra en redire un mot s'il y a des choses à en dire et en lien avec l'actualité. J'avais envie d'abord de t'interroger sur comment toi, de là où tu es, des sujets sur lesquels tu travailles, comment tu comprends ces scores importants réalisés par le Rassemblement National. Ce que je n'ai pas dit, c'est que sur l'ensemble des circonscriptions, le RN progresse en nombre de voix. Parfois, comme dans la Haute-Gironde, la candidate RN a quasiment doublé ses voix entre le premier tour de 2022 et ce premier tour dimanche dernier. mais voilà, globalement partout le RN augmente. Et juste une note peut-être en introduction de ce que disait Ipsos, donc l'institut de sondage, dans une note sur la sociologie des votes, disait: les fondamentaux de l'électorat RN restent d'actualité, avec des meilleurs scores qui sont enregistrés auprès des soutiens traditionnels, les ouvriers, les employés, les non-bacheliers, mais aussi chez les retraités, les femmes, les moins de 35 ans, dans la tranche supérieure de revenus aussi, et ça augmente aussi dans les grandes villes. Et Ipsos se dit en conclusion que finalement l'électorat du RN devient plus homogène qu'auparavant et finalement assez proche de l'ensemble de la population française. Alors je sais, Maïk, que tu n'es pas spécialiste de sociologie électorale, mais quand même un petit mot sur toi, qu'est-ce que ça peut t'inspirer ces résultats-là de dimanche ?
Oui, il semble qu'il y a vraiment une consolidation de certaines tendances qui peut s'expliquer par différents facteurs. Celui qui me semble le plus évident quand même, c'est la médiatisation spécifique pendant plusieurs campagnes, celle de 2022, celle des européennes de 2024 et celle des législatives. On avait vu pour les législatives de 2022 et les européennes de 2024 une médiatisation quasiment exclusive des enjeux classiques du Rassemblement national. Donc on avait parlé essentiellement d'insécurité, d'immigration, de questions identitaires par rapport à l'islam. Et puis aux européennes, c'est ajouté là-dessus des questions de relations internationales et la cristallisation du débat sur le conflit israélo-palestinien et dans une moindre mesure sur l'Ukraine. Donc ces thématiques-là, effectivement, ne favorisent pas la légitimité des partis de gauche ou des partis écologistes. A contrario, en 2019, on était en plein mouvement des Gilets jaunes et des marches climat, et les médias parlaient de la question sociale et parlaient de la question environnementale, et il y avait eu effectivement des bons scores des écologistes qui peuvent quand même s'expliquer en partie par ces questions-là, par cette manière-là de traiter l'actualité. Donc ça, c'est vraiment important. Et la diabolisation aussi du programme du Nouveau Front Populaire avec des accusations d'antisémitisme proférées mais jamais démontrées, puisqu'il n'y a pas eu de condamnation, ont effectivement aussi contribué à délégitimer chez un électorat modéré cette coalition de gauche social-démocrate et écologiste.
Ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est la nouveauté qui n'existait pas jusqu'alors.
Effectivement, et ça, cette campagne des législatives de 2024, elle a vraiment vu une entre guillemets diabolisation des forces de gauche, avec des accusations de déstabilisation de l'ordre politique, socio-économique, qui sont sans relation réelle avec le programme, qui est un programme qui n'est pas plus ambitieux que celui de la gauche plurielle ou du programme commun de 80. Il y a des tendances de fond d'un point de vue de la sociologie électorale et qu'ont très bien analysé mes collègues grenoblois de Pacte sur les préférences des citoyens, sur leurs attentes. Et le congrès aujourd'hui est l'occasion effectivement de partager des résultats de recherche qui montrent une ambivalence dans les différentes enquêtes, qu'elles soient par entretien ou par sondage ou par panel, d'une attente pour une verticalité du pouvoir et en même temps d'une meilleure écoute des citoyens. Et on voit une polarisation des électorats et des attentes qui peut aussi favoriser des forces politiques qui incarnent ce projet politique vertical, plutôt autoritaire, incarné, patrimonial aussi, parce que le Rassemblement national, c'est une famille avant toute chose. Et Jordan Bardella a non seulement des liens politiques, mais des liens familiaux avec la famille Le Pen.
Puisqu'il est en couple avec la fille de
Marie-Caroline Le Pen, voilà. Qui a été candidate avec succès d'ailleurs en Normandie, sauf erreur. Mais je peux me tromper. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a, voilà, dans la Sarthe, il y a des éléments de fond qui se confortent, qui se consolident là dans ces élections-là.
Peut-être un mot sur cette question-là de la verticalité. On avait l'impression ces dernières années, alors, mais bon, peut-être que c'est des populations, des personnes différentes, mais Nuit Debout, mouvement des Gilets jaunes, à l'inverse, une envie d'horizontalité, de ne pas avoir de représentants, de ne pas faire confiance à des personnes qui se mettraient en avant comme des têtes de pont et des représentants. Comment on explique cette... Est-ce que là aussi, c'est une ambivalence avec un peu des deux, un peu d'envie d'horizontalité et un peu d'envie de verticalité? Comment tu vois ça, Magali?
Alors, il y a effectivement, dans les travaux qu'ont menés mes collègues sur la question des attentes démocratiques et de la vision de la représentation politique chez les Gilets jaunes en particulier, l'équipe de recherche que je coordonne, et notamment les enquêtes de Camille Bedoc qui sont menées à Bordeaux, depuis Bordeaux dans différents pays et sur les Gilets jaunes, elles montrent bien cette coexistence dans le mouvement des Gilets jaunes entre deux pôles qui ont des visions un petit peu différentes de la démocratie, des visions qui sont critiques, un attachement à la démocratie, avec un pôle de gens qui sont en demande de plus de participation, de plus d'horizontalité, de plus d'écoute, et un pôle qui est dans le schéma que je vous expliquais, sur une attente plutôt de verticalité, avec une vision un petit peu, comme on dit, moniste du peuple 1, qui ne doit pas être divisé par des partis, et qui sont favorables à des processus de démocratie directe, voilà. Et tout ceci a coexisté dans le mouvement des Gilets jaunes. Donc, on est vraiment dans un moment où il y a une tension entre ces deux visions du monde. Et cela dit, les scores du Nouveau Front Populaire incarnent aussi des attentes en termes de participation, d'horizontalité, qui seraient celles des attentes du premier pôle évoqué dans ce mouvement des Gilets jaunes.
Pour revenir sur le premier point et ce rôle des médias, il y a ce matin sur le site du Club de la Presse de Bordeaux un billet intitulé « L'extrême droite et les médias, une nécessaire autocritique s'il n'est pas trop tard ». Un billet qui rappelle notamment que Jordan Bardella, pendant la campagne des européennes, a été mentionné 17 300 fois dans les médias contre 4 000 pour Manon Aubry, la candidate LFI. On sait aujourd'hui que le paysage médiatique est dominé par des puissances financières et idéologique, avec notamment Vincent Bolloré. Hier, Magali, tu étais invitée sur France Culture et tu rattachais aussi cette mise en avant de discours d'extrême droite dans les médias et surtout ce truc stratégique de l'extrême droite, avec notamment Vincent Bolloré, d'aller acheter des médias et d'aller y peser pour y faire passer des discours qui sont les siens, les leurs. Tu ramenais ça à la Manif pour tous 2012-2013, cette mobilisation de la droite, de l'extrême droite, des milieux catholiques aussi, contre le mariage pour tous. Est-ce que tu peux expliciter un peu ce lien, à quel moment ça remonte et comment peut-être s'est organisé stratégiquement l'extrême droite à ce moment-là?
Alors, il y a historiquement, depuis le 19e siècle, je vais remonter un peu loin, une caractéristique de la droite et de la droite anti-républicaine qui partage comme vision du monde celle ce sont les idées qui font le monde et que c'est par l'idéologie, comme dirait Marx, qu'on peut changer en fait les choses. Et cette idée-là, elle était présente chez Maurras à l'Action française, mais on la retrouve sous une autre forme, déclinée différemment, dans les années après 68, dans les groupes qu'on désigne comme ceux de la nouvelle droite, et chez certains idéologues comme Alain de Benoist. Donc cette idée que il faut s'engager dans une bataille métapolitique et culturelle pour reconquérir une hégémonie perdue, ça c'est une reprise des termes de Gramsci, ce penseur communiste critique italien. Cette idée qu'il faut refaire une idéologie et s'engager dans la bataille culturelle, ça c'est quelque chose qui caractérisait cet espace-là des droites, critique de la démocratie. Et avec la Manif pour tous, ce mouvement conservateur qui a été spectaculaire et rondement mené par des professionnels de la communication, ça a été un moment dans l'espace des droites, et pas seulement de la nouvelle droite, mais aussi chez les conservateurs, de conceptualisation d'une reconquête, d'une manière de faire l'union des droites par une grande entreprise d'offensive culturelle et médiatique. Et à partir de ce moment-là, des entrepreneurs comme Vincent Bolloré, mais d'autres, je pense à Steve Nance qui a racheté le manoir de Montretout où vit la famille Le Pen, Jacques de Guilbon, se sont lancés dans différentes entreprises de presse, de création de nouveaux titres ou d'entrée dans le capital de titres déjà existants, avec l'imposition d'une ligne éditoriale qui favoriserait l'union des droites et qui offrant ainsi des espaces de dialogue entre des représentants de courants de droite qui jadis ne se parlaient pas forcément mais qui s'étaient rencontrés dans la rue en opposition à la loi Taubira et aux politiques d'égalité de genre. Et si on ne comprend pas cela, si on n'a pas ça à l'esprit, on manque une des clés d'explication de la droitisation des campagnes médiatiques et des campagnes électorales dans lesquelles, encore une fois, les demandes qui sont au cœur des préoccupations des citoyennes et des citoyens, celles de la question du pouvoir d'achat ou plutôt de comment on vit avec nos revenus, celles de l'accès aux services publics, celles des inquiétudes très fortes à l'égard de la crise écologique, ne sont jamais traitées. Parce que sur ces questions-là, les partis de droite et d'extrême droite soit n'ont rien à dire, soit au contraire proposent des solutions qui ne vont faire qu'aggraver les inégalités ou les inégalités d'accès aux ressources vitales, je pense ici aux questions écologiques, aux questions de l'eau par exemple, et de fait ça les met en difficulté. Tandis que si on parle uniquement d'immigration, d'insécurité, de questions identitaires et d'islam, là on est sur les enjeux patrimoniaux de la droite. Et donc on leur donne un avantage.
Alors bon, il faudrait revenir plus largement sur cette question de la critique des médias. Pour avancer un petit peu, une autre question que je voulais te poser, c'est qu'on assiste là depuis dimanche soir à ces désistements, à ces appels au barrage de la gauche, de l'extrême gauche, de certaines personnes aussi au centre. Et alors c'est un sentiment personnel, mais j'ai l'impression que cet appel au barrage, y compris de la gauche et de l'extrême gauche, ne peut que couper encore plus les électeurs du Rassemblement national de la gauche en créant cette impression que y a deux camps, quoi. Il y a ceux qui sont prêts à toutes les alliances, y compris avec les macronistes, après tout ce qu'ils ont fait, et voilà, et on se souvient des gilets jaunes, de la manière dont ils ont été réprimés, de la manière dont la réforme des retraites aussi est passée malgré les millions de personnes dans la rue. Est-ce que c'est un sentiment que tu peux partager, et est-ce qu'il n'y a pas un risque de repolarisation là entre des personnes qui votent RN et tous ceux qui sont prêts à faire barrage ensemble face à ça, Magali?
Mais c'est une question très complexe qui est posée, c'est-à-dire que à la fois dans un régime démocratique libéral et représentatif, organisé autour des partis politiques, comme le prévoit la Constitution, dont la plupart sont attachés au fondement républicain et à l'état de droit, c'est le rôle des formations politiques, effectivement, de veiller à ce que la démocratie survive, y compris à l'arrivée au pouvoir de partis autoritaires. Donc, ils sont dans le rôle, entre guillemets, et dans leur rôle historique, comme ce fut toujours le cas, de constitution d'un front républicain, du point de vue des organisations. Chacun joue sa partition. Mais après, effectivement, du côté des électorats, cela peut conforter le sentiment d'une caste, d'un système qui s'entretient et qui fait tout pour survivre à l'irruption du Rassemblement national et son arrivée au pouvoir par les urnes. Ça, c'est une question extrêmement complexe. Ça peut renforcer le sentiment d'une caste et le sentiment d'un éloignement chez certaines électrices et chez certains électeurs. Ça peut peut-être aussi faire prendre conscience chez d'autres de la gravité de l'enjeu et du moment.
Et alors la question qui va avec, c'est comment faire redescendre ce vote RN, comment convaincre des électeurs que le Rassemblement National ne leur apportera rien, qu'il ne fera que diviser et taper sur d'autres pour faire croire qu'il aide les personnes qui ont voté pour eux, alors que ce ne sera pas forcément le cas. Est-ce qu'une mise en application d'un programme de gauche avec une relance des services publics, avec une augmentation des salaires, te semble, alors bon là on est un peu dans la politique fiction, mais est-ce que c'est de nature à influencer suffisamment les comportements électoraux pour qu'en 2027, il n'y ait pas de Rassemblement National ? Ou est-ce qu'il y a dans tous les cas un travail à engager pour les militants et les militantes de gauche, pour les syndicats, etc., tout de suite et sur un temps long, pour arriver à recréer d'autres liens et d'amener d'autres espérances, d'autres possibilités d'amélioration du sort de la population à gauche, Magali ?
Alors c'est un petit peu compliqué parce que moi je suis pas là pour donner des préconisations, mais les enquêtes qu'on a menées auprès des Gilets jaunes et surtout sur les cahiers de doléances en Gironde, elles montrent très clairement des attentes et des besoins et elles offrent aussi des propositions et des solutions pour satisfaire ces attentes et ces besoins. Et c'est pas que l'échelon national et l'échelon de la représentation nationale, nos députés, qui peuvent y répondre. Ça peut être aussi les politiques publiques locales. Donc déjà les élus locaux, les conseils départementaux, les conseils généraux, les communes, elles ont leur carte à jouer, leur rôle à jouer dans la mise en œuvre de leurs promesses. La première chose, c'est de ne plus trahir l'électorat, parce que dans les enquêtes, ce qu'on voit qui ressort très souvent, c'est l'expression d'un mépris extrêmement brutal de la part du chef de l'État, mais aussi l'expression plus générale d'un discrédit à l'égard des élites et des candidats politiques qui n'ont pas tenu leurs promesses. Donc peut-être que le premier point, ça pourrait être de mettre en œuvre effectivement les promesses électorales tenues en campagne, et notamment je pense au scrutin de 2020, qui a permis à des écologistes de prendre des mairies de villes importantes, et puis aux collectivités locales aussi. La Gironde est une collectivité locale socialiste. Donc là, il y a des choses qui se font. En termes de traduction des attentes des Gilets jaunes, je pense ici au RIC ou à la sécurité sociale de l'alimentation, et ce sont des demandes des cahiers de doléances qui peuvent être effectivement un moyen de montrer que les alternatives, elles existent. Et la deuxième chose, c'est de faire connaître tout cela, parce qu'effectivement, il y a des difficultés à faire exister la réalisation de politiques publiques concrètes qui répondent aux demandes exprimées dans les mouvements sociaux ou dans les cahiers de doléances, dans l'espace médiatique et vraiment dans l'espace médiatique national.
Peut-être une dernière question, Magali. Une autre chose qu'on entend ces temps-ci autour de nous, c'est cette question de la mise sur une même ligne, de faire un signe égal entre l'extrême droite et Macron, de la part de personnes de gauche, de militants, militantes, personnes engagées dans des mouvements sociaux, qui ont tellement souffert ou vu leurs camarades souffrir de toutes ces mobilisations réprimées par l'État depuis des années, qui disent c'est la même chose, il n'y a plus de différence entre ce que serait le Rassemblement National au pouvoir et ce qu'est le macronisme depuis 2017. En tant que chercheuse en sciences politiques, c'est quoi, Magali, l'extrême droite et en quoi ça reste ou pas quelque chose de différent d'un régime macroniste comme celui qu'on vit depuis 7 ans déjà ?
Alors l'extrême droite, c'est d'abord une catégorie qui est liée à un positionnement sur une échelle qui est déterminée par différents critères qui ne sont pas tous les mêmes en plus selon les pays. Et il y a quand même un rapport à l'état de droit et à la démocratie qui est discutable dans ces formations politiques-là. Ce sont des formations qui sont attachées à l'ordre. Et qui, de manière générale, ont tendance aussi à naturaliser toutes les inégalités socio-économiques.
Quand tu dis l'ordre, il faudrait peut-être plutôt dire l'autorité. Enfin, il y a quelque chose de très vertical, comme tu disais tout à l'heure.
De l'ordre, oui, d'un ordre autoritaire et très vertical. Donc ça, c'est quand même une caractéristique commune. La deuxième caractéristique commune de l'extrême droite, c'est la question de la communauté politique, du nous les citoyennes et les citoyens, qui est une conception qui est exclusive, et qui repose aujourd'hui de plus en plus sur des critères biologiques, sur des critères raciaux, sur des critères ethniques. Donc ça, c'est quelque chose qui est très clairement formulé et qui est contradictoire avec la manière dont les institutions républicaines et la communauté nationale s'est construite en France depuis la Révolution. Avec, au moment de la Révolution, la patrimonialisation du droit du sol, qui était déjà présent dès le XVIe siècle, mais qui devient un marqueur de notre identité collective nationale.
C'est-à-dire, à partir du moment où on est sur le sol français, on a le droit d'être français, de participer.
En fait, c'est un peu la conception de Renan de la nation, c'est vouloir vivre ensemble. C'est ce texte hein, qu'on nous faisait lire en terminale ou dans des formations de sciences politiques sur cette volonté de vivre ensemble, la volonté du peuple versus la nation fondée par les liens du sang, comme en Allemagne. C'est un modèle. Voilà. Et ça, cette question, enfin, cette manière de voir les choses, elle caractérise aujourd'hui l'extrême droite. Et ce n'était pas à l'origine une manière de caractériser la communauté politique dans les formations de centre dont se réclame Emmanuel Macron. Maintenant, la pratique du pouvoir par Emmanuel Macron et par les députés qui ont voté tout un ensemble de lois qui ont porté atteinte d'abord à cette conception inclusive de la nation. Et par leur pratique de remise de soi et la non-contestation de l'usage des 49.3, leur acceptation de la réduction des droits du Parlement, eh bien, on a eu une différence, enfin, on a eu une évolution de la pratique du pouvoir en France que l'on pourrait qualifier à bien des égards d'illibérale. La manière de réprimer les mouvements sociaux, la brutalisation du maintien de l'ordre. Je pense au mouvement des Gilets jaunes, mais je pense aussi à la répression massive des mouvements écologistes. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, se rapproche des pratiques d'extrême droite et qui peut pousser des électrices et des électeurs qui ont été victimes ou témoins de cette répression à ne plus jamais vouloir donner une seule voix aux représentants de la formation politique d'Emmanuel Macron. Et se pose maintenant la question des désistements et des reports de voix pour cet électorat-là, de gauche, vers des candidates ou des candidats se réclamant de la majorité présidentielle. Les mêmes qui, il y a quelques mois, les fustigeaient, les blessaient, les mutilaient dans la rue.
Et cette question reste ouverte ou tu as des éléments de réponse sur ce qui pourrait permettre ou pas ces reports-là ?
Peut-être ces reports de voix serait aussi de s'accorder sur des engagements minimaux en termes programmatiques sur ce que vont faire ces députés une fois qu'ils auront qu'elles seront élues. Un engagement minimal à respecter l'état de droit, par exemple, un engagement minimal à respecter la démocratie et le dialogue social, qui a été dramatiquement mis à mal depuis 2017.
Des engagements, en fait, de base d'un système démocratique vivant, on
Tout
pourrait dire.
Tout à fait. De la garantie de la vivacité des institutions démocratiques et de protection de la citoyenneté dans toutes ses dimensions, civiles, politiques et sociales.
Eh ben, merci beaucoup, Magali. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à ajouter sur tout ça, ou je te libère...
Non, je remercie les auditrices, les auditeurs et puis la Clé des Ondes pour son superbe travail.
Merci beaucoup à toi Magali, je rappelle que tu es directrice de recherche CNRS en sciences politiques au Centre Émile Durkheim à Bordeaux. Merci d'avoir été au téléphone avec nous depuis Grenoble.
Faut se lever, on resterait bien lové. Réitérer le programme de la veille. Cœur lavé, odeur lavande, salive de l'autre sur le coin des lèvres. Bébé, on va la faire simple. Mets tes mains sur mon torse, envahis mes tempes. Le temps nous dira si c'est un aller simple. Ensemble et de plus en plus proche. Je veux vivre la vie en slow motion. Tu me donnes tant d'émotions, c'est démentiel.